Chapitre 8. Je quitte Rome, la cascade de Terni, le cabinet de Fontana à Florence, Sienne, sa cathédrale, Parme, ma Sibylle, Mantoue, Jules Romain. Je quittai Rome le 14 avril 1792. En montant en voiture, je pleurais amèrement. J'enviais le sort de tous ceux qui restaient, et sur la route, je ne pouvais rencontrer des voyageurs sans m'écrier « Ils sont bien heureux, ceux-ci. Ils vont à Rome. » J'allais coucher le premier jour à Civita Castellana. En sortant de cette ville, le lendemain, nous vîmes de superbes rochers, puis nous entrâmes dans des gorges de montagnes où nous marchions au milieu des précipices. En tout, ce pays me parut le plus triste du monde. Il n'en fut pas de même du chemin qui conduit à Narni. Ce chemin est délicieux, des vallons remplis de vignes en berceaux, de haies de genêt et de chèvrefeuilles en fleurs. Tout cela réjouissait les yeux. Plus loin, à la vérité, nous retrouvâmes des montagnes de l'aspect le plus austère et le plus sauvage, dont les cyprès et quelques vieux pins font le principal ornement. Ces rochers nous enveloppèrent jusqu'à Narni. Mais à peine a-t-on traversé cette ville, dont l'aspect est très pittoresque, que l'on jouit du plus magnifique coup d'œil. La scène a complètement changé. La route plonge sur la plus belle et la plus riche vallée, où s'étend à perte de vue une rivière bordée de peupliers. De la hauteur où nous étions, cette rivière semblait un petit ruisseau argenté, tant l'espace à travers lequel elle serpente est immense. Des monts lointains terminent l'horizon. Le soleil couchant éclairait leurs cimes, ce qui produisait un effet enchanteur. Nous passâmes devant trois grandes croix noires qui se détachaient sur le fond dont je parle et dont l'immensité donnait à ces monuments religieux un tel caractère qu'ils me firent éprouver une sensation indicible. La seule chose que je puisse regretter, après avoir parcouru cette belle route, c'est de n'avoir pas vu le pont d'Auguste que mon voiturin, très mauvais cicérone, négligea de me faire remarquer. Nous côtoyâmes cette superbe vallée jusqu'à Terni, où nous couchâmes, et le lendemain matin, quoique le temps fût très couvert, je voulus gravir la montagne pour aller voir la fameuse cascade. Je partis avec ma fille, deux ânes, Germain et deux petits bonshommes qui nous montraient le chemin. Brunette, une baguette à la main, ne cessait de fouetter son âne et le mien, en sorte que, perçant le brouillard du matin, nous ne tardâmes pas à arriver sur le plateau qui mène à la cascade. Là, nous nous reposâmes sur un beau gazon enrichi de fleurs et d'arbres divers. Une seule petite maison, un troupeau, un berger, c'est tout ce que nous trouvâmes dans ce lieu charmant où l'on respire l'air le plus pur en jouissant de la plus belle vue du monde. J'aurais bien désiré avoir là ma chaumière. Je m'y plaisais tant. Il n'en fallut pas moins continuer notre chemin pour aller voir la cascade. En traversant une roche coupée, nous approchâmes de ce large torrent dont la chute est si imposante. Ensuite, nous entrâmes dans un petit pavillon carré pour voir sous un autre aspect cette masse d'eau qui tombe bouillonnante et dont la vapeur nous environnait. Ensuite, nous descendîmes dans la grotte antique où jadis passait la cascade. On ne peut rien voir d'aussi curieux que les différentes pétrifications qui s'y trouvent. Elles ressemblent en grand à celle que l'on observe à Tivoli. Je dessinai l'entrée si pittoresque de cette grotte et je m'emparai de quelques petits morceaux pétrifiés. Ma curiosité sur la cascade n'étant pas encore satisfaite et le temps se trouvant favorable, car le soleil commençait à percer les nuages, je descendis au bord de la rivière formée par cet énorme torrent pour jouir d'un point de vue dont mon imagination s'était flattée. J'espérais voir en face la chute d'eau, mais je ne la vis qu'en partie. Il est vrai que j'en fus dédommagé par le spectacle qu'offre cette grande nappe du bas et le chemin qui y conduit. À gauche étaient des rochers ornés et nuancés par mille arbustes en fleurs, à droite, sur la rivière courante, de petites îles garnies d'arbres légers qui forment des bocages charmants. Toutes ces îles sont séparées par des cascades multipliées dont l'eau ruisselait et brillait comme des diamants au soleil qui avait alors tout son éclat. Il était midi et la chaleur était si forte que, lorsqu'il nous fallut remonter les rochers pour aller retrouver nos ânes, que nous avions laissés à 3 000 de là, j'étais anéanti de fatigue. Brunette n'en pouvait plus. Enfin, nous parvînmes à rejoindre de Monture, qui nous rapportèrent à Terni pour dîner. Les campagnes de Terni sont riches et belles, la ville est bien bâtie. Mais, soit dans les églises, soit ailleurs, je n'ai rien trouvé de bien remarquable, sinon les restes des fondations d'un grand temple antique. Je ne restai qu'un jour à Terni. Le lendemain, nous passâmes la Somme, une des plus hautes montagnes des Apennins. Je me rappelle qu'en la descendant, nous vîmes dans une tour, près du chemin, plusieurs bergères qui chantaient en chœur une musique suave et délicieuse. Ces bonnes fortunes ne sont pas rares en Italie. Le soir, j'arrivai à Spolète et j'allai voir le lendemain l'Adoration des Rois, grande composition de Raphaël. Ce tableau n'étant pas terminé, indique parfaitement la méthode du divin maître. Raphaël peignait d'abord les têtes et les mains. Quant à ses draperies, il en essayait d'abord les tons avant de les terminer. On voit sur la montagne, à Spolète, le temple de la Concorde, dont les beaux fragments antiques sont arrangés avec symétrie les uns sur les autres. Les colonnes, leurs chapiteaux, sont du plus beau travail grec. On voit aussi dans cette ville un superbe aqueduc d'une hauteur immense. Après Spolète, nous allâmes à Trevi, à Cetri, puis nous nous arrêtâmes à Foligno. Là, je trouvai encore un tableau de Raphaël, un des plus beaux et des plus originaux qu'il ait fait. Il représente la Vierge sur des nuages, tenant l'enfant Jésus dans ses bras. L'enfant est plein de naïveté et semble en relief. La Vierge est d'une noblesse du plus grand style. Le Saint Jean, le cardinal placé à gauche, sont peints tout à fait dans le genre de Van Dyck, et les autres figures sont aussi d'une grande vérité. Comme j'arrivais à Pérouge, qui est une belle et célèbre ville où il reste quelques fortifications et quelques tombeaux antiques, on me décida à aller voir le combat d'un taureau contre des chiens. Ce spectacle, qui n'a lieu que tous les 5 ou 6 ans, en mémoire d'une sainte, se donne dans une espèce d'arène à la manière des anciens. Je puis dire qu'il ne me réjouit pas du tout. En sortant de Pérouge, on trouve des campagnes charmantes que nous traversâmes pour aller dîner en face du lac Trasimène. Puis nous allâmes à Cise, où l'on voit sur la montagne une grande forteresse surmontée d'une tour, et plus haut encore, tout à fait sur la cime, une abbaye. Enfin, à la Combuccia, Arezzo, Levane et Pietrefonte, pour arriver à Florence. Ce fut pour moi une grande jouissance, dès que je me retrouvais dans cette ville, d'aller revoir tant de chefs-d'œuvre auxquels je n'avais pu donner qu'un coup d'œil en passant pour aller à Rome. J'entrepris aussitôt une copie du portrait de Raphaël, que je fis avec amour, comme disent les Italiens, et qui, depuis, n'a jamais quitté mon atelier. Un souvenir de Florence, qui m'a poursuivi bien longtemps, est celui de la visite que je fis alors aux célèbres Fontanes. Ce grand anatomiste, comme on sait, avait imaginé de représenter jusque dans les moindres détails l'intérieur du corps humain, dont toutes les parties sont si ingénieuses et si sublimes. Il me fit voir son cabinet, qui était rempli de pièces d'anatomie, faites en cire couleur de chair. Ce que j'observai d'abord avec admiration, ce sont tous les ligaments presque imperceptibles qui entourent notre œil, et une foule d'autres détails particulièrement utiles à notre conservation ou à notre intelligence. Il est bien impossible de considérer la structure du corps de l'homme sans être persuadé de l'existence d'une divinité. Quoi qu'aient osé dire quelques misérables philosophes, dans le cabinet de M. Fontane, il faut croire et se prosterner. Jusqu'ici, je n'avais rien vu qui m'eût fait éprouver une sensation pénible. Mais comme je remarquais une femme couchée de grandeur naturelle qui faisait véritablement illusion, Fontana me dit de m'approcher de cette figure, puis, levant d'une espèce de couvercle, il offrit à mes regards tous les intestins tournés comme sont les nôtres. Cette vue me fit une telle impression que je me sentis près de me trouver mal. Pendant plusieurs jours, il me fut impossible de m'en distraire, au point que je ne pouvais voir une personne sans la dépouiller mentalement de ses habits et de sa peau, ce qui me mettait dans un état nerveux déplorable. Quand je revis M. Fontane, je lui demandai ses conseils pour me délivrer de l'importune susceptibilité de mes organes. « J'entends trop, lui dis-je, je vois trop et je sens tout d'une lieue. »« Ce que vous regardez comme une faiblesse, me répondit-il, c'est votre force et c'est votre talent. D'ailleurs, si vous voulez diminuer les inconvénients de cette susceptibilité, ne peignez plus. On croira sans peine que je ne fus pas tenté de suivre son conseil. Peindre et vivre n'a jamais été qu'un pour moi, et j'ai bien souvent rendu grâce à la Providence de m'avoir donné cette vue excellente dont je m'avisais de me plaindre comme une sotte au célèbre anatomiste. De Florence, je me rendis à Sienne, et je n'ai jamais oublié la charmante soirée que j'ai passée en arrivant dans cette ville, où je ne suis resté que très peu de temps. Mon habitude a toujours été, dès que je descends dans une auberge et que j'ai commandé mon souper, d'aller faire une petite course à pied qui me délasse de la voiture. Le soleil allait se coucher quand je partis pour me promener dans les environs de Sienne et pour reconnaître les lieux. Assez près de mon auberge, j'aperçois une porte ouverte qui me laisse voir un enclos et un assez grand canal. Je descends la marche de cette porte et je m'assieds dessus pour respirer la fraîcheur dont j'avais grand besoin. Là, j'entendis bientôt un concert nature que les nôtres sont bien loin d'égaler. Divers bruits harmonieux me berçaient délicieusement. À gauche, c'était celui de la cascade qui alimentait le canal. Puis un vent léger agitait les branches des énormes peupliers plantés sur le bord de l'eau. Et 1000 oiseaux, par leurs chants, faisaient leurs adieux au jour. Une pluie fine se mit à tomber à petit bruit sur les feuilles. Mais bien loin qu'elle me fît déloger, elle me sembla si bien d'ensemble avec toute cette douce musique que pendant plus de 2 heures j'oubliai mon souper. La fille de l'auberge, après m'avoir cherché longtemps, finit par me trouver là et vint m'arracher à mes jouissances. Si les propriétaires de ce bel enclos lisent par hasard ceci et qu'ils reconnaissent les lieux, je les remercie aujourd'hui du plaisir qu'ils m'ont procuré à leur insu. Le lendemain, je fis quelques courses dans la ville, qui est très belle et très bien située sur une hauteur. On y voit des palais et des maisons gothiques, entre autres la maison de Sainte-Catherine et celle de je ne sais quel saint. L'hôtel de ville renferme des peintures antiques. Les Augustins, une fort belle bibliothèque, et la superbe église bâtie par Vauvitelli, où se trouvent des tableaux de Romanelli, de Carlo Maratre et de Pietro Perugine. Mais ce qu'on peut admirer avant tout, c'est la cathédrale. Cette belle église est gothique, extrêmement vaste, et revêtue de marbre en dedans et en dehors. Sa voûte est couleur d'azur, parsemée d'étoiles d'or. Les vitres du haut sont toutes peintes, et le pavé même est remarquable en ce que les sujets de l'Ancien Testament y sont tracés. Elle est ornée par 12 statues en marbre, représentant les 12 apôtres, par de belles fresques, par des tableaux du Calabrese, du Perugine, etc. Et plusieurs des chapelles ont été décorées par le Bernin. Dès que je fus revenu à Parme, où je n'avais passé que très peu de jours en allant à Rome, on m'y reçut de l'académie, à qui je donnai une petite tête que je venais de faire d'après ma fille. Dans la même semaine, j'éprouvai aussi dans cette ville une satisfaction non moins vive. J'emportais avec moi le tableau de la Sibylle que j'avais fait à Naples d'après Lady Hamilton. Mon projet était de le rapporter en France, où je comptais alors entrer bientôt. Comme ce tableau était encore fraîchement peint, en arrivant à Parme, pour qu'il ne jaunisse pas, je le mis au jour sous châssis, attaché seulement dans l'une de mes chambres. Un matin, j'étais à faire ma toilette quand on m'annonça que 7 à 8 élèves peintres venaient me faire une visite. On les fit entrer dans la chambre où se trouvait placée ma Sibylle, et quelques minutes après, j'allais les y recevoir. Après m'avoir parlé de tout le désir qu'ils avaient eu de me connaître, ils me dirent qu'ils seraient heureux de voir quelques-uns de mes ouvrages. « Voici un tableau que je viens de finir, » répondis-je en montrant la Sibylle. Tous témoignèrent d'abord une surprise bien plus flatteuse que n'auraient pu l'être des paroles. Plusieurs s'écrièrent qu'ils avaient cru ce tableau fait par un des maîtres de leur école, et l'un d'eux se jeta à mes pieds, les larmes aux yeux. Je fus d'autant plus touchée, d'autant plus contente de cette épreuve, que ma Sibylle a toujours été un de mes ouvrages de prédilection. Les lecteurs, en lisant ce récit, m'accusent peut-être de vanité. Je les supplie de réfléchir qu'un artiste travaille toute sa vie pour avoir 2 ou 3 moments pareils à celui dont je parle. Je restai quelques jours à Parme pour revoir les églises, la bibliothèque, le théâtre, qui est bâti par Vignola, et rappelle tout à fait l'antique. C'est grand dommage qu'il n'ait pas été plus soigné. Quoi qu'il soit immense, il ne s'y perd pas un son. Je vis là des danseurs qu'on devrait appeler des tourneurs, car ils ne faisaient pas un seul pas et ne cessèrent de tourner comme des totons. Je visitai aussi tous les palais qu'on me dit renfermaient des objets d'art. Dans l'un d'eux, je ne sais lequel, je vis des plafonds d'allégrines et admirables. Je ne pouvais contempler tant de belles collections particulières sans regretter que ce beau luxe, ce luxe de si bon goût, n'existât point en France. On peut à peine compter à Paris 3 ou 4 cabinets d'amateurs, et combien encore diffèrent-ils de ceux des seigneurs italiens. Je quittai Parme le 1er juillet 1792. La nature était alors dans toute sa beauté, et ma sortie de la ville m'offrit le coup d'œil de la plus belle campagne qu'on puisse voir. Sans doute, le beau ciel de l'Italie aide à la magie du spectacle. Néanmoins, ces prairies à perte de vue, parsemées d'arbres, autour desquelles la vigne grimpe en s'entrelaçant, ces 1000 ruisseaux serpentants dans de riches vallons que terminent de hautes montagnes ou des collines boisées, ce grand chemin bordé de chênes qui souvent sont baignés par des canaux dont 1000 fleurs champêtres ornent les bords, tout cela ravirait sous quelque ciel que ce fût. Je voulus aller à Mantoue, qui méritait bien une visite, et comme patrie de Virgile, et comme aînée du Capitole, car on prétend qu'elle a été bâtie par les Étrusques ou Toscans 300 ans avant la fondation de Rome. Cette ville, située au milieu d'un lac formé par le Mincio, est grande et belle. Sa magnifique cathédrale est de Jules Romain, qui, comme on sait, était à la fois peintre, architecte et sculpteur. Jules Romain et le Primatice ont enrichi Mantoue de chefs-d'œuvre en tout genre. Toutes les salles du palais ducal sont ornées par ces deux grands peintres et par Gonzalès. Ce palais est immense et l'un des plus riches que l'on puisse voir sous le rapport des arts. On vous fait voir à Mantoue la maison de Jules Romain. Elle est située en face du palais Gonzalès, qui est construit aussi sur les dessins de ce célèbre maître. Il y a à Mantoue une académie des beaux-arts et un musée de statues. L'église Saint-André renferme plusieurs beaux monuments et la bibliothèque de nombreux manuscrits. Le palais du Thé est aussi très remarquable par les peintures à fresques de Jules Romain et du Primatice. Ces fresques représentent des sujets héroïques et l'histoire de Psyché. Jules Romain est mort à Mantoue en 1546, mais son nom vit encore avec toute sa gloire dans cette ville où il a laissé un plus grand nombre de chefs-d'œuvre que partout ailleurs.